Bonjour à tous. Oui. Ça marche. Donc, merci à tous d'être venus pour cette table ronde avec Monsieur Alexandre Vincent, Monsieur Vincent Debiet, Monsieur Éric Palazzo qui fera modérateur, et puis Monsieur Frédéric Chauveau. Donc, cette table ronde se fait dans le cadre de notre projet annuel de Master 1. Donc, on avait en fait pour les deux semestres, le but était de réaliser un travail qui devait regrouper 100 à 150 heures par personne. Et on a décidé de le faire au travers de l'organisation de différents événements en partenariat avec l'Espace Mendès France. Donc le premier était une conférence qui a eu lieu avec M. Palazzo la semaine dernière. Puis nous avons la table ronde. Demain, il y aura une autre conférence avec le professeur Nicolas Leveziel. Ensuite, nous aurons une projection débat. Et il y a aussi une exposition que vous avez pu voir juste devant la salle Confluence sur les cinq sens de l'homme à la machine. Et on a décidé de faire tout le thème en fait de notre projet annuel sur les cinq sens. Voilà. Donc merci beaucoup à tous d'être là et nous vous souhaitons une bonne soirée.
Merci Antoine. Alors j'ai le plaisir d'être ce soir le modérateur de cet événement. Après avoir ouvert donc cette série la semaine dernière par une conférence au bâtiment de SFA sur les cinq sens au Moyen-Âge. Au nom de mes collègues et de moi-même, je voudrais tout d'abord remercier Gaël, Antoine et Manon pour leur initiative et leur projet qui est vraiment magnifique. Et vous verrez tout à l'heure, je pense, les panneaux d'exposition qu'ils ont préparés. Alors pour ce soir, c'est un dialogue à plusieurs voix qui va s'instaurer là entre quatre collègues spécialistes de périodes historiques différentes. L'Antiquité, représentée à ma droite par Alexandre Vincent. Le Moyen-Âge, doublement représenté par Vincent Debiet. Donc Alexandre Vincent, maître de conférence en histoire de l'Antiquité, en histoire antique à l'Université de Poitiers. Vincent Debiet, chargé de recherche au CNRS, médiéviste. Frédéric Chauveau, mon prédécesseur au siège de doyen de la Faculté des sciences humaines et arts de Poitiers, monsieur le doyen, et professeur d'histoire contemporaine donc, à l'Université de Poitiers, et moi-même donc professeur d'histoire de l'art du Moyen-Âge et actuel doyen de l'UFR SHA. Alors, je salue aussi dans la salle Fabrice, Cécile, voyez, parce que c'est Cécile qui va animer la table, enfin pas la table, la projection débat de jeudi soir avec le magnifique film de Andy Guérif. Alors voilà comment les choses vont se passer. Chacun va parler entre 5 et 7 minutes sur sa période, une façon un petit peu libre sur les cinq sens dans la période qui le concerne. Et puis dans un second temps, nous aurons une série de questions qui nous ont été proposées par Gaël, Manon et Antoine. Et je ne doute pas que déjà dans les interventions, un certain nombre de réponses auront été apportées aux questions posées. Mais on respectera, en tout cas je suis là pour le faire, respecter vos questions, Gaël, Manon et Antoine. Et on y reviendra, donc ce sera une forme beaucoup plus basé sur l'échange entre nous. Voilà, merci d'être là. Sans plus tarder, donc, Alexandre, si tu veux, on prend un petit peu un déroulé chronologique, un peu bête comme ça, mais c'est pas grave, sur les cinq sens dans l'Antiquité.
Merci Eric, j'ai pas trop l'habitude. D'habitude, quand on fait des colloques où c'est la chronologie qui parle, c'est les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Grecs, j'arrive en dernier, j'ai le temps de me préparer, mais là, non. Merci aux organisateurs pour leur proposition et comme il me revient l'avantage de commencer, la responsabilité aussi, je vais commencer par quelques mots un petit peu méthodologiques sur le fait d'étudier la sensorialité en histoire et plus particulièrement en histoire de l'Antiquité avec les années et les millénaires qui se sont écoulés, ça rajoute des petites spécificités. Il y a quelques semaines de cela, cette vénérable institution qu'est l'Espace Mendès France a accueilli une conférence d'un anthropologue extrêmement célèbre, David Le Breton, sur l'anthropologie des émotions. Et ça a donné lieu à une série de questions, disons, entre lui-même et Mohamed Jaber, qui est le responsable de laboratoire de biologie que vous connaissez peut-être plus particulièrement. Voilà. David Le Breton, nous avions expliqué que les émotions sont relatives à leur contexte, qu'elles ont des significations différentes suivant les sociétés, les civilisations qui les emploient. Et Mohamed Jaber, son collègue biologiste, lui disant « mais je ne comprends pas ». On vient justement de nous faire une formation nous disant que les émotions sont universelles. Donc comment est-ce que vous pouvez nous dire qu'il n'y a pas d'émotion universelle, il n'y a pas de joie universelle, il n'y a pas de peur universelle, alors que nous, on nous dit exactement l'inverse en biologie. Ça en est suivi une confrontation, puisqu'un échange, et qui était extrêmement intéressant sur les différentes manières d'appréhender ces genres de questionnements. Alors évidemment, les émotions, ça n'est pas les sensations, ça n'est pas la même chose, mais il y a quand même un certain nombre de questionnements méthodologiques qui sont communs à ces deux types d'approches et qui peuvent permettre de lancer peut-être la discussion et les échanges. Il y a d'abord cette idée de l'universalité versus la relativité. En fait, je pense que la discussion aurait pu peut-être permettre à une compréhension plus globale, y compris pour les spectateurs qui étaient un peu pris en otage entre les deux, si on avait posé que oui, effectivement, aussi bien dans les émotions que dans les sensations, on peut avoir une quantification de phénomènes biologiques. Pour ce qui m'est un peu moins inconnu, les phénomènes d'audition, on peut déterminer que l'être humain entend des fréquences qui vont de 20 à 20 000 Hertz. Bon, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, qui est pourtant une réalité qui parle à nos collègues de sciences dures, une fois qu'on a dit ça, la question de l'interprétation de ce phénomène sonore implique une approche qui est une approche située dans l'espace ou située dans le temps. Et c'est dans cette interprétation que se joue l'accord finalement qu'il peut y avoir entre les collègues biologistes ou acousticiens et nous. Ils ont raison, évidemment, les phénomènes de perception peuvent être quantifiés d'une certaine mesure, ils ont des effets physiques que l'on peut mesurer, mais quant à savoir ce que cela signifie dans un contexte ou dans un temps donné, alors là c'est autre chose. Et là on est dans le cadre de l'interprétation du signifiant, on est dans l'interprétation de ce qui nous est donné par certaines civilisations. Cette différence, elle peut être géographique. Les anthropologues vont voir les différences entre les manières d'entendre au Japon et les manières d'entendre dans les forêts couvertes où les sons sont étouffés par la végétation. Elles peuvent être aussi chronologiques. Et c'est là que nous, historiens, nous intervenons pour essayer de montrer que ces perceptions sonores, eh bien, aussi perturbantes, aussi déroutantes que ça puisse être, eh bien, elles sont aussi situées dans le temps et que donc, quand un son était donné, encore une fois je me restreins au son, quand un son était donné, est entendu pardon, par nous aujourd'hui, bah, ça ne veut pas dire la même chose pour les anciens. Et ce qui nous permet de faire la différence, ce sont les sources, les sacro-saintes sources auxquelles nous historiens, nous accrochons, comme la moule à son rocher. Eh bien, ces sources, elles nous permettent de jouer sur l'interprétation et de déchiffrer l'interprétation. Et c'est là que notre travail se joue. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps sur ces questionnements méthodologiques, juste pour faire enchaîner avec un exemple. Et l'exemple, il va peut-être vous paraître provocateur ou abscon, je ne sais pas, vous choisirez votre degré de tolérance au sujet. C'est celui du silence. Dans l'Antiquité romaine, donc, qui est un des objets d'étude, mais la transition se fera très facilement avec mon collègue situé juste à côté de moi, dans l'Antiquité romaine, donc. Et le silence, dans un cadre précis pour ce soir, celui de la religion romaine, qui est énoncé en latin par le terme « silentium ». Qu'est-ce que c'est que le silentium? Alors, les passerelles se font assez simplement pour nous. Silentium, silence, c'est presque transparent comme mot. Qu'est-ce que c'est que le silentium? Le silentium, ça peut être à la fois une réalité acoustique dans certaines circonstances. Le silence, c'est quand il n'y a pas de bruit, mais pas plus particulièrement même quand on fait une recherche précise de lexicographie, quand il n'y a pas de voix. C'est là que se joue l'opposition entre silence et voix. Bon, c'est là que se construit le terme de silence. Quand on se concentre seulement sur la religion... les rites de la religion publique romaine, le silence, nous dit Festus, qui est un grammairien du IVe siècle, c'est l'absence de tout vice. Qu'est-ce que les Romains entendent par vice? C'est tout ce qui vient perturber les rites, perturber l'efficacité rituelle. La religion romaine, c'est une religion orthopraxique. Ce qui compte, c'est que le rite soit fait efficacement, pas la croyance. De toute façon, tout le monde croit, puis il n'y a pas de doxa, il n'y a pas de pensée qui est fixe. Ce qui compte, c'est que la pratique soit faite et qu'elle soit efficace. Et le silentium est là pour ça. Le silentium, il aide à ce que le rite soit réalisé. Alors le silentium, on le voit ici, là. C'est ce qui est formidable, c'est qu'on voit même plusieurs modalités du silence sur cette stèle qui n'est vraiment pas ce que l'art romain nous a livré de plus beau. Hein. On a une stèle d'Italie du Nord, on est juste au-dessus de Milan, dans une cité romaine qui s'appelle Angera, qui est réalisée en l'honneur de, c'est écrit ici, Jupiter Optimus Maximus, de Jupiter, le plus important des dieux, réalisée par deux individus qui ont représenté l'archétype du sacrifice romain. Et le sacrifice, c'est une mode de communication entre les hommes et les dieux. Cet archétype, il a ici trois manières de représenter le silence. Trois manières de représenter le silence. La première, elle est ici. Le sacrifiant, celui qui réalise le rite, donc la seule personne qui compte véritablement dans cette scène, parce que c'est lui qui est chargé de la communication entre les citoyens et les dieux, il a sur la tête un pan de sa toge qui est relevé. Ce pan de sa toge qui est relevé, c'est la manière typiquement romaine de faire les rites, ce qui les différencie des Grecs notamment. Et ce pan de sa toge relevé, certains Romains ne savent pas trop à quoi ça sert, certains Grecs non plus, et Plutarque, un polygraphe du IIe siècle, nous explique que probablement ce pan de la toge relevée, il sert à protéger le sacrifiant contre ceux qui l'environnent. Donc c'est une première manière d'éviter qu'il y ait des vices qui apparaissent par des paroles ou des bruits qui viendraient perturber notre sacrifiant. Un premier pan, plus symbolique que réel, de toge qui crée une première modalité du silence. Deuxième modalité du silence, cet individu-là. Vous avez un individu qui... Ah mince, je n'ai pas l'habitude, je peux zoomer. Vous avez un individu qui a la bouche entrouverte, qui a une main portée sur l'oreille et qui représente probablement le héros qui est en train de crier quelque chose. Et que crie-t-il ? Il crie « Favete linguis ». Favete linguis, ça veut dire « retenez vos langues ». Retenez vos langues, taisez-vous. Il crie pour appeler au silence. Manière de créer l'environnement propice à la réalisation du rite, encore une fois. Jusqu'à présent, on n'est pas trop perturbé, on voit une deuxième modalité du silence. La troisième modalité du silence, elle est en plein centre, elle est ici. Vous avez un individu qui souffle aussi fort qu'il le peut, il a les joues gonflées, regardez, il est en plein effort ici, et il souffle dans deux tubes, c'est ce qu'on appelle des tibias, c'est une sorte d'instrument à hanche double, deux instruments à hanche double, et il joue de la tibia. Nous voyons cela et nous disons, habitués que nous sommes par 2000 ans d'histoire chrétienne, nous disons très bien, il est en train d'agrémenter le rite, il parle à Dieu, il transporte vers l'au-delà, que sais-je donc, rien du tout, il fait du silence. Je dis n'importe quoi, très bien, vous ne me croyez pas, Pline, Histoire naturelle 28.11. Pour éviter qu'aucun des termes ne soit sauté ou interverti, aucun des termes qui sont lus par le sacrifiant. Quelqu'un lit d'abord la formule d'après le texte, c'est le monitor, il n'est pas représenté ici, tandis qu'un autre surveillant est placé pour en contrôler l'exactitude, et qu'un troisième, enfin, est commis à faire observer le silence. C'est ce praeco dont on a vu qu'il disait favete linguis. Pendant ce temps, le tibiken, c'est le musicien, se fait entendre pour qu'aucune parole ne puisse être perçue. Deux faits remarquables ayant été retenus, chaque fois que des imprécations ont troublé le sacrifice ou que la prière a été mal faite, aussitôt, la tête des entrailles ou le cœur ont disparu ou ont été doubles sans que la victime eût bougé. Le sacrifice est donc non valide. Les dieux signifient qu'il n'a pas été accompli comme il le faut et donc il faut recommencer de zéro. Cette modalité, troisième modalité du silence, donc, lui, c'est lui, le musicien, qui en soufflant aussi fort qu'il le peut, crée une sorte de paravent sonore pour éviter que ce que Pline, dans le texte latin, appelle les direi obstrepentes, c'est-à-dire les paroles gênantes, en gros, ne viennent perturber l'officiant quand il est en train de communiquer avec les divinités. On a le voile, on a le voile qui est donc plus symbolique que réel, l'appel du héros qui appelle le silence, mais vous savez bien, enfin vous avez peut-être fait court ou peut-être pas, vous appelez au silence et puis bon, deux minutes après ça parle quand même, ou même tout de suite après ça parle quand même. Et puis il y a une troisième modalité, c'est le bruit. Le bruit est un moyen de faire du silentium, puisque le silentium est l'absence de suis. On a donc un silence qui, dans le cadre des sacrifices de la religion romaine, est un silence bruyant. Ça vaut peut-être le coup, dans ce cas-là, d'aller voir vraiment ce que signifient les mots et de les mettre en rapport avec les pratiques.
Merci Alexandre. Les 7 minutes sont plus que respectées. Ça nous laissera un petit peu plus de temps pour l'échange. Alors, sans transition particulière, nous allons avancer dans le temps, même si j'ai à l'esprit beaucoup d'éléments de transition possibles. Surtout après ce qu'Alexandre vient de dire sur le silence, n'est-ce pas Vincent?
Oui.
Et donc, sans transition aucune, Vincent Debiais sur la période médiévale.
Merci Eric. Alors, sans transition aucune, mais avec beaucoup de décalque en fait, parce que je vais évidemment commencer par quelques éléments de méthode. C'est bon, en fait c'est qu'il y a un noir avant. Voilà. Quelques éléments de méthode. Alors, pour rappeler une banalité, mais l'historien du Moyen-Âge, quand il veut faire de l'histoire des sens, en fait il ne se sert pas de tous ses sens. C'est une banalité, mais c'est important, et en gros il se sert de deux sens. Il se sert de la vue et du toucher. il se sert de la vue et du toucher, la vue qui lui permet de prendre connaissance du contenu des textes et des images, et puis le toucher qui lui permet de manipuler les objets, et tout ça étant dû au fait que nous sommes avant tout des manipulateurs de sources, hein, inscrits dans une histoire de la trace, finalement, et que l'on peut connaître que ce qui a été fixé dans le temps et le lieu du matériau. Alors on fait une archéologie du sonore, de l'olfactif, mais beaucoup plus par reconstruction que par emprise ou par saisie, hein, comme disent les philosophes. Hein. Il n'y a pas de saisie de ces choses-là. Et je prends un seul exemple, hein, le trou que vous avez indiqué en rouge dans cette église de Gérone, hein, de Saint-Péret de Galligans, est en fait fait pour entendre le mystère pascal qui est joué à l'étage de l'église. Évidemment, on voit le trou, on le mesure, on l'appréhende par le toucher et par la vue, mais en aucun cas on ne peut entendre le mystère pascal tel qu'il était produit à la fin du XIe siècle à Saint-Péret de Galligans. C'est une banalité, certes, mais elle conditionne notre approche des sens. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas connaître ce que le Moyen-Âge a dit ou pensé des sens, mais c'est bien l'étude des textes, des images, des lieux, des matériaux, des dispositifs des sens au sens large qui nous mène au sens. Alors évidemment, comme je suis un tout petit peu fan de David Le Breton, je le suivrai, hein, en disant qu'il faut savoir manier invariants physiologiques et contexte, universalité et relativité. Le Moyen-Âge, comme nous, connaît cinq sens. Hein, les hommes et les femmes du Moyen-Âge ont des oreilles et des yeux. Et ils s'inscrivent très directement dans la tradition qu'a exposé Alexandre à l'instant. D'un point de vue matériel, les évidences historiques attestent d'une attention à chacun des cinq sens. Il n'y a pas un sens qui est laissé de côté. Et je vais prendre avec vous quelques exemples. Alors, en commençant par l'ouïe, hein, et les paysages sonores façonnent évidemment le cadre de vie au Moyen-Âge. Et on a toujours en tête l'empreinte des cloches, hein, si chère à Jacques Le Goff, qui rythme le temps du religieux et du laïc. La musique, le chant connaissent de grandes évolutions, l'apparition de la notation musicale, le développement de l'organologie, l'invention de la polyphonie, autant d'éléments qui témoignent de l'attention au sens de l'ouïe, avec évidemment une composante, et c'est quelque chose qu'on va trouver de façon constante au Moyen-Âge, une composante théorique derrière tout ça, une attention à l'harmonie, à la disharmonie, hein, à la cacophonie, au silence. Et c'est les règles monastiques qui nous imposent, pas à nous tellement, mais aux moines, hein, toute une gamme de silences, le grand silence, le petit silence, le très très grand silence, hein, qui décrit des types de silences très différents, le silence où le moine ne doit pas faire craquer ses doigts de pied dans la nuit. C'est le très grand silence du règle bénédictine. Hein, le cri, le chant, la voix qui clame, qui psalmodie, qui murmure, hein, sont autant de déclinaisons de ce sens de l'ouïe. Alors le toucher, alors il est évidemment difficile à saisir dans toute son étendue, on n'en connaît que des bribes, mais le baiser, hein, la manumission, l'étreinte sont autant d'éléments importants du toucher et qui va au cours du Moyen-Âge se connoter d'une vertu juridique. Hein, le serment, l'hommage, hein, le contrat se scellent par l'emprise des corps, hein, et on va passer d'une sensorialité à une sensualité, notamment avec l'amour courtois dans lequel la découverte du corps, hein, et l'appréhension par le toucher vont se doter d'une dimension sexuée puis sexuelle. Le goût, c'est assez compliqué, hein, à documenter pour le Moyen-Âge. Les recueils de recettes de cuisine pour le Moyen-Âge montre toute la gamme des saveurs gustatives connues, avec des descriptions tout à fait curieuses, hein, puisque les adjectifs employés pour décrire les goûts au Moyen-Âge sont extrêmement fleuris, hein, mais la suavité, l'odeur, le goût, le goût du sel, le rôle du sel, le rôle des épices, hein, sont extrêmement importants, et la découverte ou l'introduction d'un nouvel élément exotique en vient à bouleverser notre connaissance de ce que le Moyen-Âge a entendu par goûteux ou non. L'odorat, là, même chose, hein, les odeurs sont très présentes dans le paysage médiéval, et en particulier la mauvaise odeur, hein, la pestilence, hein, cette odeur nauséabonde qui rend malade, hein, qui est porteuse de maladie. Et puis, au contraire, les parfums, hein, les onguents, qui sont toujours signes de luxe et de richesse et de sensualité, ce qui est évidemment un élément très intéressant. La vue, enfin, qui est le sens des sens, celui qui permet la connaissance immédiate des choses, Un voir, c'est reconnaître et savoir. Au Moyen-Âge, toutes les réflexions esthétiques, sur l'art notamment, établissent ce que l'on voit comme la manifestation ultime du beau. Et évidemment, les mosaïques de Germini des Prés ici, avec leur inscription, nous proposent trois modalités différentes de la vue pour accéder à ce que l'on voit et à ce que l'on ne voit pas du monde. À l'inverse, le secret, le mystère, le caché, le dissimulé est vu avec suspicion et défiance. Cinq sens, donc, comme moyen d'une relation au monde immédiate, dans le sens qu'elle est non médiatisée, elle est connue par la perception sensorielle. Parfois difficile à saisir parce qu'on ne voit pas les choses avec les mêmes valeurs qu'au Moyen-Âge, et j'aime beaucoup prendre un exemple, c'est celui de la vision, de la vue ou de la contemplation des saints, par exemple, au Moyen-Âge, qui n'est absolument pas doté d'une quelconque connotation érotique. Il n'y a pas d'érotisation des saints avant une période très avancée dans l'histoire, et quand on voit une image avec quelqu'un qui voit les saints dans notre personnage, il n'y a aucune connotation érotique. Ce serait une erreur que de projeter cela sur l'image du Moyen-Âge. Il y a donc un invariant, mais il y a une culture des sens avec un invariant physiologique et un système de valeurs qui se combinent. Il y a les bonnes odeurs, les mauvaises odeurs, les sons agréables, les sons dissonants. Tout ça dépasse évidemment l'empirisme et engage toujours la morale, l'éthique, dans une économie 2000 ans de christianisme, de la relation au monde. Donc il y a une importance de la théologie des sens. On a longtemps fait l'erreur, et là je pense qu'Éric en a largement parlé, d'une religion chrétienne qui placerait les sens au second plan, qui les rejetterait dans un rejet du corps. C'est évidemment une erreur. La place des sens dans la religion chrétienne est essentielle. Il y a une sensorialité chrétienne qui permet un accès au monde et un accès à la divinité. Le suave, le doux, le tendre sont des qualités de Dieu. Avant tout, et je vous renvoie à la prière de Saint Bernard à la Vierge, qui est un monument d'érotisme avant l'heure. Alors il y a un impératif des sens comme moyen d'accès à Dieu, et là c'est le principe même de la liturgie, la mise en signe, la mise en sens pour l'accès au mystère. Le rituel est là pour susciter l'activation des sens, l'interaction du fidèle dans le lieu et le temps de la liturgie et de la divinité. Et là on retrouve exactement ce que disait Alexandre tout à l'heure. Ici, évidemment, on a une connotation culturelle très forte, un arrière-plan biblique fondamental. Goûtez combien le Seigneur est bon, dit le psalmiste. Les herbes amères de la Pâque, les ténèbres de la crucifixion, le silence de Dieu lors de la prière au Mont des Oliviers, tout ça est évidemment extrêmement sensoriel, parce que derrière les cinq sens, il y a le sens du cœur, celui qui permet de connaître Dieu dans l'intimité. À côté de cela, il faut aussi envisager d'autres systèmes basés sur l'un ou l'autre sens. On pourrait multiplier les exemples, le système héraldique par exemple, basé sur la vue. Et on a aussi ici la volonté de créer des systèmes qui permettent la communication personnelle et institutionnelle comme moyen d'une interrelation. L'homme et le monde passent par les sens. Le travail de l'historien pour le Moyen-Âge est donc de déceler à travers ces usages des sens dans les sources médiévales les réalités anthropologiques qui sont en jeu. Et je ne résiste pas à l'idée de vous montrer cette image qui illustre le traité des urines de Ibn Hassan, traduit au XVe siècle, dans lequel la pathologie est décelée à travers la vue de la couleur de l'urine, son odeur, son goût, sa texture dans les doigts et le son qu'il produit lors de la mixture. Donc on a les cinq sens réunis pour l'établissement de la pathologie des urines.
Merci. Merci à toi, Vincent. Alors, avec l'autorisation de Gaël, Manon et Antoine, j'ajoute quelques minutes sur le Moyen-Âge pour rappeler un certain nombre de choses avant de donner la parole à Frédéric. Et nous ne sommes pas du tout en retard du point de vue du temps, donc nous pouvons un petit peu en profiter. Alors, juste quelques éléments, Vincent, pour le Moyen-Âge. Alors, d'abord, point commun, vous l'avez remarqué, il y en a de multiples, mais notamment ce point commun entre la présentation d'Alexandre et celle de Vincent, c'est la problématique des sources. Je l'ai évoqué aussi la semaine dernière. Comment on fait pour parler des sens sur quelque chose qui par définition n'existe plus, sans la rappeler. Donc on est tous confrontés à cette problématique des sources. Alors au-delà de ça, juste quelques éléments complémentaires à ce que vient de dire Vincent sur la question des sens au Moyen-Âge. Fondamentalement, parler des sens au Moyen-Âge, mais c'est vrai pour n'importe quelle autre période, c'est fondamentalement parler du corps et de la place du corps. C'est fondamentalement intégrer la manière ou les manières dont on a pensé la place du corps en termes anthropologiques, pas simplement en termes social ou culturel. Et pour le christianisme antique et médiéval, le cœur du sujet, et j'emploie ce mot à dessein, c'est bel et bien celui de la problématique de l'incarnation. Le Christ s'est incarné, Dieu s'est incarné dans le Christ, et ça place tout à fait au cœur de la théologie chrétienne et du christianisme la réflexion de la place du corps et de l'activation sensorielle pour pouvoir accéder à la vision eschatologique, à la vision finale. Autrement dit, on n'est pas que dans une vie de l'esprit, on est dans une problématique qui pose le corps comme lieu d'expérience privilégié du rapport à Dieu et à l'homme et au monde. Ça, c'est un premier point, et je voulais rappeler cet élément lié à l'incarnation. Deuxième point, c'est ce que j'ai appelé l'interchangeabilité des sens. On est dans un contexte au Moyen-Âge où on n'hésite pas à penser les sens en termes d'interchangeabilité. C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément qu'avec les yeux. On peut voir avec le goût, on peut toucher avec l'odorat, etc. Donc il y a toute une problématique comme ça de cette interchangeabilité des sens qui est tout à fait liée aussi à un autre point, un autre sujet, qui est celui de la définition de chacun des sens. Comme je l'ai rappelé la semaine dernière, au Moyen-Âge, on est dans l'héritage aussi de la tradition antique et plus ancienne de la connaissance du corps humain, de la médecine même, la problématique de la médecine et de l'approche du corps à travers la médecine est importante au Moyen-Âge. Mais on a parfaitement conscience d'une certaine manière que les sens, ou chacun des sens, ne se définit que dans son rapport aux autres sens. Et ça pose une question de fond qui est celle de l'activation intersensorielle, c'est-à-dire de la mise en relation des sens entre eux pour au final produire une forme de synesthésie, d'intersensorialité qui est tout à fait fondamentale pour la réflexion sur l'unité de l'homme en tant que tel et son rapport au monde, au microcosme, au macrocosme ou au cosmos de façon générale. Enfin, dernier point, ensuite je donne la parole à Frédéric. Dernier point, c'est la question, là aussi on est vraiment en perspective chrétienne, hein, rapport entre les sens corporels et les sens spirituels. Ça, c'est quelque chose aussi de très très important dans la perspective médiévale permet de penser l'idée d'une connexion, d'un lien, d'une relation entre les sens corporels de nature sensorielle véritablement, hein, et puis les sens spirituels qui ont des liens très directs avec les sens corporels et qui sont censés activer les vertus, c'est-à-dire la dimension plus intérieure et spirituelle de l'homme. Et tout ceci s'intègre bien sûr dans ce que j'ai évoqué très très rapidement en parlant ou en rappelant l'importance du thème de l'incarnation en perspective chrétienne, et ceci conditionne beaucoup, bien sûr, la façon de penser les sens au Moyen-Âge. Alors, il faudrait quelqu'un aussi sur l'époque moderne, la Renaissance, et pourtant plusieurs travaux de grands historiens en France ont porté sur la période moderne ou à la jonction. Bah, Fabrice, si tu as des... Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, hein, par les historiens sur la période moderne ou la fin au XIXe siècle. Alain Corbin, par exemple, a été vraiment le grand historien en France. Alors, Corbin était plutôt en disant ça, je parle au passé, en pensant à ses travaux fondateurs. Il était plutôt un historien des sens, mais un historien des sens au sens social du terme. Hein. L'approche de Corbin, ça a été vraiment la définition des sens dans l'organisation sociale, culturelle, au XIXe siècle. Mais il y a eu beaucoup de travaux aussi sur la Renaissance et notamment en relation très directe avec le développement de la connaissance de l'anatomie et donc du fonctionnement réel du corps et de sa dimension sensorielle. Voilà. Frédéric, à toi la parole.
Merci. Bien, donc, bonjour. Alors, merci donc aux organisateurs. Donc effectivement, je vais passer par-dessus donc l'époque moderne pour arriver à l'époque contemporaine, mais juste sur Alain Corbin, il vient de sortir il y a deux jours un ouvrage qui est une... il n'est donc pas mort, et il ne s'est pas non plus spécialisé dans les sépultures, les cadavres et les cimetières, et son interrogation, c'est de faire une sorte d'histoire des gammes ou des variétés d'émotions à partir d'un élément qui peut sembler minuscule, qui est un brin d'herbe de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc si vous ne savez pas quoi lire dès demain matin, ben, n'hésitez pas. Alors, je réponds tout d'abord aux sollicitations des organisateurs et des organisatrices qui, dans un premier temps, avaient dit « vous partez d'abord un petit peu de vos recherches pour élargir après le panorama ». Et donc, effectivement, moi je suis plutôt spécialiste de la justice, du crime, de la violence, des cadavres. Et donc si... voilà. Donc j'aurais pu vous parler évidemment comme ça du toucher de l'autopsie donc judiciaire cadavérique, et puis bon, on m'a dit que c'était pas forcément donc une bonne idée. Donc alors, j'aurais pu vous parler aussi de l'odorat, et donc évidemment par rapport au crime, on se rend compte, et les caricaturistes le disent de manière assez ample au 19e siècle, que ceux-ci peuvent, à la suite de la putréfaction, donc dégager un certain fumet plutôt donc désagréable. Donc je ne vous en parlerai pas non plus. Et la vue. Alors la vue aussi, donc on s'intéresse à l'invention d'un nouveau type de crime, le crime meurtre contre enfants. Et donc la vue permet aussi à ce moment-là donc d'entreprendre une charge contre le voyeurisme. Ouais, donc là, c'est pas nouveau. Alors j'aurais pu parler aussi du goût, mais ça je ne l'ai pas évoqué, puisque j'ai quelques affaires d'anthropophagie, mais voilà, quand j'en ai discuté avec les ordinateurs, on m'a dit que ce n'était pas forcément donc, une bonne idée. Alors finalement, donc, je ne vais pas vous parler de ces travaux-là, mais plutôt de vous proposer donc quelques éléments un petit peu plus généraux sur le 19e siècle. Alors, simplement, ce qu'on peut dire, c'est que se met progressivement donc en place une vraie hiérarchie des sens. C'est-à-dire qu'on va les classer et on va les numéroter. Et ce classement va faire, si je peux dire, l'unanimité. Il va y avoir une sorte de consensus, puisque donc régulièrement, par le biais d'un certain nombre de congrès, de réunions savantes, on va se mettre d'accord sur ce classement. Alors vient tout d'abord donc le plus noble des sens, c'est la vue. Ensuite, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Voilà donc le classement qui est donc en quelque sorte proposé, qui ne diffère pas donc fondamentalement d'un certain nombre d'autres époques, mais la nouveauté, c'est qu'au XIXe siècle, on dit c'est nouveau. Les autres n'y avaient pas songé. Et voilà. Bien. Alors, ce classement, donc, bien sûr, peut être évidemment donc discutable. Alors, simplement, donc, du point de vue, si je puis dire, cognitif, le maître de la hiérarchie qui a imposé ce classement et ce point de vue, vous le connaissez, c'est Paul Broca. Hein, Paul Broca, donc, c'est un médecin, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes. C'est aussi le fondateur de la Société d'anthropologie de Paris, de l'École d'anthropologie de Paris. Donc c'est un personnage évidemment donc très très important. Et l'intéressant, c'est que cette grille sensorielle, celle que je viens d'énoncer, qui a été fixée et figée, il va la déplacer un petit peu et l'appliquer au monde animal et au monde humain, en disant finalement donc cette grille permet de décoder un petit peu donc l'univers du vivant. Donc là, évidemment, c'est une proposition qui est tout à fait donc intéressante. Et lui, finalement, il parle plutôt de l'anatomie, pardon, pour aboutir en fait à une vision plutôt donc anthropologique des sens. Alors simplement, il reste évidemment que le sens le moins noble au XIXe siècle, c'est l'odorat. Et curieusement, c'est le sens qui va donc conduire à une profusion d'écrits, de curiosité, donc d'interrogation. Alors, ce qu'on rend compte, c'est que pourquoi est-ce que c'est celui qui est le plus dénigré ? Parce qu'il est considéré comme étant donc le plus proche de l'animal. Voilà, c'est par exemple, c'est l'exemple de la chasse. Voilà, donc le chien va débusquer donc l'animal. Voilà, et donc à ce moment-là, il faut qu'on s'écarte le plus possible de l'animalité. Et donc vous avez comme ça une profusion donc d'articles là-dessus. Et puis vous avez des personnages qu'on a un petit peu oubliés, donc Manouvrier, qui était donc un des chantres de l'anthropologie physique, et Freud aussi, qui disent que finalement donc l'odorat, c'est ce qui permet finalement donc de regarder comment donc l'être humain parvient donc véritablement au stade de l'humanité. Autrement dit, et Freud le dit aussi très précisément, la bipédie a fait en sorte que l'être humain eh bien, s'est écarté de l'odorat. Puisque l'odorat, c'est on est à quatre pattes, on est au plus proche, si je peux dire, des odeurs. Et donc, quand on s'élève, à ce moment-là, on s'éloigne de l'odorat. Mais en même temps, comme à ce moment-là, il y a toute une série de spécialisations, on en vient à dire que l'homme moderne, donc celui du 19e siècle, a développé, donc, je cite, une olfaction extraordinairement fine. Et donc là, évidemment, c'est être capable de discerner toutes sortes d'odeurs. Alors, reste que si donc l'odorat est l'objet de discrédit, on voit évidemment donc survenir un certain nombre de tournants. L'un des premiers, c'est peut-être autour des années 1850, où on va s'attaquer plus précisément à un certain nombre de parfums. Il y a des parfums qu'on va considérer comme trop traditionnels, ou plus grave encore, comme trop proches de l'animalité. Et à ce moment-là, il faut s'en écarter. Mais pour cela, il faut d'abord les repérer, être capable de les identifier, de les définir, et puis après proposer autre chose. Alors, quels sont ces parfums? On a tout d'abord donc le musc. Alors, le musc, bon, je vous le précise, hein, c'est produit à partir des mammifères. Et je signale que ce type de parfums, aujourd'hui, sont tombés en désuétude. Donc, ceux ou celles d'entre vous qui voudraient éventuellement donc, se reconvertir, là, il y a un créneau, donc actuellement, on pourrait proposer, et je ne vous demanderai même pas 5%, si je peux dire, sur le prix des ventes que vous pourriez faire de la commercialisation de ces nouveaux produits. Le deuxième, c'est l'ambre. Alors, l'ambre, vous savez, il est fabriqué à partir des intestins du cachalot. Donc, évidemment, d'emblée, ça n'apparaît pas comme quelque chose de très sophistiqué. Le troisième, c'est la civette. Et la civette, là, vous le savez, c'est la poche anale des petits mammifères qui vivent en Afrique ou en Inde. Donc ça, on n'en veut absolument plus. Et effectivement, à partir des années 1850, on se rend compte que tous ces parfums qui peuvent rappeler l'animalité, eh bien, finalement, donc, disparaissent progressivement. Mais il y a davantage, parce que le monde des odeurs que l'on va donc regarder, on va le faire comme à d'autres périodes, on va faire la traque aux mauvaises odeurs et on va essayer de les repérer. Alors, imaginez, il y a quand même des enquêteurs hein, qui font la tournée. Donc, imaginez leur appendice nasal comme ça sur un certain nombre de lieux. Alors, on va d'abord, donc, les mauvaises odeurs, c'est d'abord les cimetières. Voilà. Bon, donc là, évidemment, ça ne va pas. Ensuite, les pauvres. Voilà. Donc là, il y a toute une littérature. Et puis, on continue. Les espaces clos. Et à ce moment-là, on va visiter un certain nombre de lieux enfermés. Alors, tout d'abord, les garnis. Vous savez, ce sont ces dortoirs avec notamment l'haussmannisation. Tous les travailleurs saisonniers venant du Limousin séjournant pendant 6 mois ou davantage à Paris. Et donc, imaginez les lieux, les chaussettes en train de sécher, le saucisson qu'on a amené, différentes victuailles. On peut faire un peu la cuisine. Et certains parlent à ce moment-là de cacophonie olfactive pour désigner donc l'odeur des garnis. Et puis, on s'attache au bureau, au pensionnat, aux casernes. Et le dernier lieu que l'on va visiter, ce sont les églises. Alors pas évidemment donc les églises des grandes villes, mais les petites églises ou les églises moyennes un petit peu retirées avec une véritable ferveur à l'intérieur et une concentration un petit peu trop grande de population. Voilà. Alors à ce moment-là, on va aussi donc essayer de proposer à partir des odeurs une autre cartographie de l'univers qui permet de se situer dans le monde et de percevoir les autres. Et vous avez donc quelqu'un qui s'appelait le docteur Monin qui a fait donc un ouvrage qui est absolument fabuleux qui s'appelle « Le monde des odeurs ». Et dans ce livre, voici ce qu'on peut lire. Je cite, hein, pour ne pas surinterpréter, « Le paysan du midi sent l'ail et l'oignon par la peau. La foule des faubourgs et des banlieues exhale l'assommoir comme au bal musette, une âcre odeur et fade odeur de hanneton. » Et puis il poursuit parce qu'il franchit les frontières. Et donc si on traverse la Manche et on arrive du côté des Anglais, et bien à ce moment-là, quant aux excréments, donc imaginez aussi la lignée d'enquêteurs là, qui sont diligentés pour voir ça. Quant aux excréments, rien ne ressemble moins à ceux d'un Anglais carnivore que ceux d'un derviche exclusivement nourri de végétaux. Vous voyez, donc là, on peut faire aussi une classification pour se repérer. Alors, s'il me reste encore une minute peut-être, j'évoquerai aussi très rapidement là, la question donc, de l'éclairage qui change radicalement les choses au XIXe siècle. Puisque l'éclairage, c'est bien sûr la fée électricité, et on a du mal évidemment donc à se représenter la révolution que ça peut représenter. Mais d'abord, chez soi, comme ici dans cette salle, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas d'éclairage au gaz, on peut se voir et se distinguer donc parfaitement. Et donc ça change complètement donc la vue, la perception. Ensuite, on peut désormais donc tout éclairer, Paris, les réverbères, les grandes villes, et puis aussi donc les corps, mais d'une autre manière. Et par exemple, le corps des danseuses va être éclairé de manière singulière. Ça n'a pas duré très longtemps, mais on va inventer des bijoux lumineux. Donc imaginez l'estrade, la pièce est plongée dans la pénombre, et puis vous avez des danseuses qui sont munies comme ça autour de la taille, du cou, voilà, des bijoux électriques. Alors simplement, comme il n'y a pas de piles, ce sont des fils. Il y a une malheureuse ballerine de l'opéra donc, qui a été électrocutée, donc on a abandonné évidemment l'incident. Mais ceci dit, vous voyez donc tout ce qu'on a pu essayer de proposer donc, parmi d'autres pour essayer d'éclairer. Donc on peut dire qu'on a une véritable révolution, une culture oculaire, mais à ce moment-là, il y a aussi une transformation, c'est que désormais, comme il semble naturel qu'il n'y ait aucun filtre à la vue, on va essayer de tromper le regard. Et pour tromper le regard, évidemment, il va falloir qu'on trouve des biais, qu'on trouve des ruses. Et la première manière de tromper le regard, c'est par rapport au visage. Comment donc donner l'apparence du naturel par la vue au visage ? Et donc à ce moment-là, évidemment, donc, le bronzage est banni, c'est insupportable. Il faut avoir donc la peau la plus blanche ou la plus claire possible. Et à ce moment-là, on propose un certain nombre de recettes pour que celui qui regarde puisse être trompé. Voilà, et donc, alors parmi donc les recettes, vous savez, c'est les bains de vapeur de sang, les tranches de bœuf qu'on peut donc appliquer. Et puis pour les femmes qui résistaient, si je peux dire, à ce traitement, on pouvait donc injecter un petit coup d'électricité. Donc on était soudainement blanc, évidemment, ça ne durait pas forcément très longtemps, mais en tout cas, c'était relativement efficace. Et puis à partir de là, eh bien, dans cette illusion du naturel que la vue peut restituer, on voit aussi, par exemple, la mode des prothèses. Mais je m'arrête là parce que j'ai peut-être... Bon, je continue avec mes prothèses. Alors. Donc, la mode des prothèses. Donc, vous savez, si on prend simplement donc, en dehors du nez, qu'on peut essayer donc, de modifier avec pâte à modeler. Mais le grand problème pour la vue au 19e siècle, c'est quand même la denture. Voilà. Et quelqu'un qui a toutes ses dents, c'était quand même un spectacle assez rare. Et donc à ce moment-là, on a d'abord la denture fraîche, c'est comme ça qu'on appelait, c'est-à-dire qu'on fait la tournée des hôpitaux des pauvres ou des cimetières pour essayer donc d'obtenir un certain nombre de dents. Et puis à partir des années 1854, on invente véritablement les dents minérales qui permettent à ce moment-là donc de remplacer l'ensemble des cavités. Et donc quand on souriait, on n'hésitait plus, on pouvait présenter donc à ce moment-là une sorte d'unicité de la denture. Et puis donc après, on se dit oui, mais quand même, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas du tout de dents. Et donc on invente le dentier, et le premier à avoir inventé le dentier, c'est pas facile à placer dans la conversation courante, c'est Goodyear, qui s'est spécialisé dans d'autres domaines après, hein, voilà, voilà. Mais donc on a, voilà. Et donc on a comme ça toute une série d'éléments qui fait qu'à partir du moment où la fée électrique est venue, eh bien on va essayer donc de tromper le regard. Et ça, c'est sans doute une problématique originale du 19e siècle.
Merci Frédéric. Alors voilà, on a bien tenu le temps, on a quoi 45 minutes hein, de débat, c'est ça, Gaël, puisque on avait dit 1h30 à partir de 6h30. Donc 1h30 à partir de 6h30, pour moi c'est 20h, mais... Tout à fait. Merci de le rappeler. Combien vous voulez de temps pour le public? 20 minutes, d'accord. Donc très bien, on se cale sur 20-25 minutes pour nos échanges. Alors, juste pour lancer le débat... Quelques réactions peut-être rapides à ce que vient d'expliquer Frédéric, ou d'exposer Frédéric. Sans doute que dans l'assistance, là, il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire « Ah ben, on se sent plus proche de ce qu'il a dit, de ce que nous, on a dit. » Je pense que c'est important parce que il y a un très, très grand savant au XXe siècle qui s'appelait Norbert Elias. Alors lui, il est mort, là, pour le coup. Lui, c'est sûr. Produit une œuvre fondamentale basée sur ce qu'on appelle le processus de civilisation et dans lequel il a essayé de montrer qu'au fur et à mesure de notre société occidentale, on va dire, tout portait vers une sorte de domestication, on pourrait dire, de tout ce qui relève des manières. Alors ça a donné nos manières pour beaucoup de choses, on continue de les pratiquer, ces manières, hein, de table et autres, mais, ou d'hygiène. Et au fond, ce qu'a décrit Frédéric, ça fait un peu partie de tout ce processus-là. Donc sans doute, ça vous semble plus proche aussi parce que on est dans cette modernité-là. Alors quand je dis modernité, je ne porte pas de jugement. C'est la modernité au sens de quelque chose de moderne, de temps moderne, si vous préférez. Alors que ce qu'on vous a présenté avec Alexandre, Vincent et moi-même, c'était des choses peut-être un peu plus, comment dirais-je, détachées. Ça vient avant ce processus de civilisation, avec des visions qui sont plutôt de l'ordre, comment dirais-je, de l'imaginaire, du rapport au monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aspect imaginaire non plus, hein, mais en tout cas dans les exemples que tu as choisis, ça nous renvoyait plutôt vers ces choses-là. Et dans la façon dont on peut penser l'homme dans le monde et dans son rapport au monde. Pour continuer aussi et lancer le débat, tu as dit que dans la période là que tu as présenté rapidement, l'odorat était le sens le moins noble. Par exemple, c'est le sens le moins noble parce qu'on commence à être dans la ville moderne où on essaye d'évacuer les mauvaises odeurs, on essaie de les canaliser, on essaye de les transformer parce que c'est pas bon socialement, c'est pas bon culturellement. Je vous renvoie aussi à Georges Vigarello, le propre et le sale, etc. Mais prenez l'exemple du Moyen-Âge. L'odorat, je l'ai expliqué la semaine dernière, c'est au contraire un sens qui est très très bien placé dans la hiérarchie des sens, parce que, au moins en perspective chrétienne, ça ne veut pas dire que ça ne sentait pas mauvais à Paris au XVe siècle, hein, mais c'est la très bonne odeur du Christ, parce que le Christ sent bon, parce qu'il sent l'encens.
Donc, à partir de là et de cette vision du monde, l'odorat, tout en ayant conscience, si vous voulez, de la mauvaise odeur qui peut circuler ou pas, s'était mis, si j'ose dire, pour faire bref, au second plan, parce que la bonne odeur, c'était d'abord la bonne odeur du Christ, qui est celle de l'encens, qui vient d'ailleurs lutter contre les mauvaises odeurs. Grégoire le Grand, le très grand pape, 596 ans 4, relate un épisode au cours duquel, pour la consécration d'une église à Rome, au moment de la consécration de l'église, il y a un porc qui rentre dans l'église et qui diffuse une odeur nauséabonde. Le rituel s'arrête, c'est un signe de profanation, et le rituel de consécration s'arrête. Et tout le monde se demande comment on va faire pour consacrer l'église. Et au fond, à un moment donné, un miracle se produit. Il y a une sorte de nuage divin qui descend sur l'autel, et ce nuage divin sent l'encens, donc le Christ qui vient purifier l'odeur nauséabonde apportée par le porc. Donc vous voyez que là, c'est tout à fait concret. Hein, des porcs qui entraient dans les églises, ça existait. Mais en même temps, le relais pour les théologiens médiévaux, c'est celui de l'imaginaire, c'est celui de la relation à la place de la théologie et de la vision, je dirais, éminemment théologique, hein, de l'activation des sens. Alexandre, Vincent.
Et non, j'ai pas grand-chose à dire sur le faiblesse divin, mais par contre, les questions de hiérarchie des sens que Frédéric a énoncées sont effectivement extrêmement importantes, en partie aussi parce que ça fait écho à toute une littérature que l'on retrouve dans l'anthropologie des sens et dans l'histoire des sens qui sont là. Alors vous avez l'impression peut-être que tout le monde fait de l'histoire des sens parce que vous avez un certain nombre de gens qui sont rassemblés devant vous. En fait, ça correspond à une tendance historiographique relativement nouvelle et relativement restreinte. Et il y a sans doute un certain nombre de périodes qui ont pris de l'avance, et plus on descend dans le temps, moins il y a de choses qui ont été faites. Mais en tout cas, les questions de hiérarchie des sens et de... Quand Frédéric explique qu'il y a un ordre qui est créé à un certain moment, effectivement, c'est des questions qui sont posées depuis longtemps. Quel sens existe, d'une part ? Il y a un nombre de sens qui est défini, notamment on prend Aristote comme point de départ, Aristote qui définit les cinq sens, tels que nous les connaissons encore, qui sont les sens canoniques, je dirais, qui sont les sens qui sont retenus comme étant les sens en rapport avec l'humanité. Mais l'idée qu'il y ait d'autres sens existe, doit être conçu, doit être gardé en tête. Il y a un moment où les sens sont déterminés, sont fixés, mais Aristote n'est pas l'alpha et l'oméga de tout le monde, y compris dans l'Antiquité. On trouve chez d'autres auteurs d'autres sens qui ont disparu, qui ne sont pas retenus après. On trouve d'autres hiérarchies aussi, suivant les différentes conceptions, les différentes appréhensions philosophiques des auteurs. Alors Eric et Vincent ont évidemment mis en avant l'extrême importance du christianisme dans la construction de cette sensorialité médiévale. Avant cela, il y a une profusion d'appréhensions qui sont aussi en rapport avec le monde divin, et une profusion de classement des sens qui sont en rapport avec d'autres manières de penser, d'autres systèmes de pensée. On trouve par exemple chez Philon d'Alexandrie, qui est un auteur juif, mais qui est influencé par le néoplatonisme, par le stoïcisme aussi, l'idée que la tête est la citadelle des sens, et que plus on est éloigné de la tête, moins le sens est pur en quelque sorte. C'est pour ça que la vue a la prééminence, parce que les yeux sont plus proches de la tête que ne l'est la bouche. Voilà. D'autres manières d'interpréter les hiérarchies sensorielles qui ne sont évidemment pas en rapport avec la divinité chrétienne, et qui montrent là encore la relativité, en tout cas la nécessité d'appréhender de manière contextuelle ces questions de hiérarchie sensorielle et même de définition des sens et du nombre des sens et de la réalité des sens.
Oui, alors pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, Eric, simplement sur le fait que les choses qu'a évoqué Frédéric nous paraissent plus proches de nous, plus réelles d'une certaine façon, plus en prise avec le monde tel qu'il est vécu. Ce qu'il est important de retenir, c'est que pour le Moyen-Âge notamment, mais d'une certaine façon pour les périodes antérieures, la dimension symbolique ou la dimension pensée de la relation au monde n'est pas abstraite du tout.
le symbolique, la relation symbolique au monde a autant de réalité que la perception sensorielle elle-même. C'est-à-dire que le symbolisme médiéval n'est pas quelque chose qui est propre aux contemporains qui regardons le Moyen-Âge et qui trouvons du symbolisme partout. Le symbolisme est une façon de penser le monde au Moyen-Âge en lui-même. Donc, c'est-à-dire que le fait de penser que l'odeur peut mener à Dieu est quelque chose d'extrêmement concret. C'est-à-dire qu'il y a une emprise de la théologie sur le monde qui est tout à fait importante, et en fait on souffre ici d'une confusion d'une certaine façon de catégories anthropologiques et de relations au monde qui sont extrêmement importantes à prendre en compte si on veut percevoir comment les médiévaux ont perçu le monde d'une certaine façon. Et le corollaire de cela, c'est que c'est pas vraiment un sens pour le Moyen-Âge, mais l'une des facultés qui est retenue au même titre que les sens pour penser le monde, c'est l'imagination. Et ça, dès le XIIe siècle, l'imagination, le fait de penser le monde en images, même quand ces images n'existent pas dans une réalité, est tout aussi important que le produit de la perception. Donc les sens ne servent pas simplement à percevoir le monde, ils servent aussi à l'imaginer, ils servent aussi à le penser différemment, à le penser en image. Et donc encore une fois, ici on se retrouve dans une inversion de notre système de fiabilité des sens. Il faut voir pour croire en réalité. Pour le Moyen-Âge, il faut faire plein de choses pour croire, mais il faut croire avant tout pour qu'ensuite les sens produisent à leur tour des perceptions qui ne sont pas réellement, en tout cas que d'un point de vue contemporain, on ne qualifierait pas comme de l'ordre de la perception sensorielle.
Pour l'époque contemporaine, oui, effectivement, donc le sens le plus utilisé, c'est la vue, avec là aussi quand même des problèmes historique d'interprétation. Il y a une thèse qui a été soutenue il y a quelques années déjà à l'université d'Avignon, où le doctorant donc avait pris deux corpus. Le premier corpus était celui des cahiers de dictée d'un instituteur pour savoir à ce moment-là à l'intérieur quel était le type de description qui avait été proposé aux élèves. Et à partir de ce corpus sur la carrière d'un instituteur, il s'était rendu compte qu'au début les descriptions sont très panoramiques. Voilà, c'est la forêt, c'est le champ complet. Et puis progressivement, dans le choix des descriptions et donc des dictées proposées aux élèves, la focale se resserre et ça glisse vers des détails. Et le deuxième corpus qu'il avait mis en relation, c'est un photographe professionnel, peut-être au pied du Mont Ventoux. Et donc sa collection de photographies suit à peu près donc le même mouvement. C'est-à-dire qu'au début, on a plutôt donc des grands paysages, voire des photos de groupes, 15 personnes. Et puis progressivement donc dans sa collection, on a de plus en plus de portraits comme si on allait vers le détail. Donc on passe du panorama donc au détail. Et puis vous avez un sociologue que vous connaissez qui s'appelle Georges Simmel, sociologue, historien, etc., qu'on redécouvre progressivement à la charnière du 19e et du 20e siècle, qui avait fait donc un petit essai aussi sur le regard, donc d'un point de vue plus théorique, pas empirique, pas à partir de corpus, mais sa conclusion était à peu près donc identique. Il existe bien une sorte de révolution oculaire, révolution silencieuse, mais plus importante peut-être que la révolution économique ou la révolution des transports, et c'est le fait que l'on passe effectivement donc du général au détail. Voilà, donc ça, c'est une question qui est posée, qu'il faut trancher. L'autre aspect aussi, c'est qu'on va essayer de relier progressivement donc la perception des sens au cerveau. On le manie de manière plus étroite. Et vous avez quelqu'un que vous connaissez aussi, c'est Sétène, un des fondateurs de Sciences Po, l'auteur de l'histoire de la France contemporaine, qui a passé 2 années d'ailleurs à Poitiers, puisque au moment du coup d'État, on avait supprimé l'agrégation. Donc il avait été en poste à Poitiers. À l'époque, il n'avait pas du tout aimé. Il avait dit que c'était un pays de casernes et de couvents. Voilà. Bref, donc, ne soyons pas désobligeants, je m'arrête là. Mais simplement, donc, pour Rotten, il a inventé une expression qui a fait le tour d'un certain nombre d'intellectuels. Il avait dit que finalement, donc, l'esprit, c'est un polypied d'image. Et si c'est un polypied d'image, évidemment, c'est la vue qui permet à ce moment-là de le percevoir et de le séquencer. Donc là, évidemment, c'est tout à fait intéressant. Mais l'autre grande transformation avec laquelle nous, on est peut-être plus habitués actuellement, c'est la profusion des images. Et cette profusion des images, eh bien, elle impressionne les contemporains. Alors évidemment, les poètes peut-être au départ plus sensibles, que ce soit Rimbaud ou Baudelaire. Si vous regardez par exemple certains poèmes de Rimbaud qui s'inscrivent plutôt dans la mode zutiste, vous avez certains poèmes qui sont faits uniquement avec des slogans figurant sur des affiches publicitaires. Et donc ces affiches publicitaires, c'est pas, non pas parce qu'on les a entendues, mais parce qu'on voit les grosses lettres, gros caractères comme ça sur les murs. Et puis vous avez un auteur que l'on peut donc citer, qui traduit bien à ce moment-là le sentiment d'un certain nombre d'artistes, d'intellectuels, de personnages un petit peu donc esthètes. Voici ce que dit cet auteur, c'est Huysmans. « Quelle dégoûtation, reprit-il, en montrant autour d'eux les murs des maisons couverts d'affiches. Il y a bien une ressource maintenant pour échapper à l'horreur de cette vie ambiante, c'est de ne plus lever les yeux, de garder à jamais l'attitude timorée des modestes. Allons, en ne contemplant plus que les trottoirs, l'on voit dans les rues les plaques des regards électriques de la compagnie Pop, compagnie électrique à l'époque. Il y a des signaux, des blasons d'alchimistes en relief. Ça peut permettre de s'imaginer qu'on vit au Moyen-Âge. C'est pas moi, c'est Huysmans ça qui le dit. Je le précise. Bien. Alors, toujours est-il que à partir de là, le dernier élément sans doute qui va contribuer donc à poser un certain nombre de questions sur le regard, c'est la question de la photographie. Et donc la question de la photographie, des premières daguerréotypes, et puis donc Walter Benjamin, que je n'ai pas besoin de vous présenter, mais dit que finalement la photographie, c'est l'agent révélateur d'un inconscient de la vue. Voilà, donc il y a un sens qui peut être l'imagination, mais donc les sens peuvent avoir un inconscient, et donc c'est Walter Benjamin qui nous met donc un petit peu sur la voie. Mais l'autre, évidemment, donc élément d'importance peut-être pour l'époque contemporaine, c'est que on va essayer de proposer une sorte d'apprentissage de la vue, et il faut que le regard soit un petit peu discipliné pour qu'il puisse se porter sur différents éléments. Alors, on peut prendre juste un exemple, normalement ça figure un petit peu après. Voilà, c'est ça. Voilà. Si on prend uniquement donc la question donc de la mode des tournures, il y a ce moment-là donc où vous avez donc à partir en gros des années 1880, quand c'est à peu près fixé, un certain nombre de spécialistes, de critiques de la mode, qui vont donc donner un certain nombre de conseils pour préciser où doit se porter le regard et comment on doit regarder à ce moment-là une silhouette. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des silhouettes en ombre chinoise. Donc, on ne voit pas la qualité des vêtements, la couleur, la texture, mais on donne un certain nombre de conseils. Le regard doit être séquencé. On doit tout d'abord porter attention aux formes. Et donc, dans ces formes, c'est la tournure, le tube ou la cloche, les trois formes dominantes au XIXe siècle. On doit porter donc un regard précis sur la longueur. Pour le XIXe siècle, on voit quasiment à peine les chevilles, donc c'est beaucoup plus simple. On doit aussi s'intéresser à la taille. La taille est-elle placée directement sous les seins, comme au moment du Premier Empire, ou descend-elle et jusqu'où va-t-elle remonter? Et puis aussi, mais là évidemment on ne le voit pas, c'est la question des couleurs. Et à ce moment-là, quand on regarde des couleurs, eh bien, les conseils que l'on donne, c'est que les couleurs doivent être interprétées. Et donc à ce moment-là, la vue doit être capable d'être une sorte d'appareil pour décoder les couleurs. Et chaque couleur, à ce moment-là, est assortie à un sens. Et plus particulièrement à partir des années 1870-1880, puisque vous le savez, c'est aussi la mode des impressionnistes. Et donc vous avez des couleurs qui n'étaient pas forcément donc portées, qui vont être en quelque sorte réhabilitées. Et puis après ça, ça va évidemment donc envahir l'imaginaire collectif. On peut prendre juste simplement donc le bleu, plus particulièrement le bleu clair. Le bleu clair, à ce moment-là, est associé donc à la pureté et à la rêverie. Et puis si vous prenez par exemple le personnage d'Alice au Pays des Merveilles, vous vous souvenez comment elle est habillée, quelle est la couleur de ses vêtements. Voilà, on est en plein dans cette dimension.
Merci Frédéric. Alors je vous propose un rapide dernier tour de table entre nous avant de donner la parole à la salle. Très rapidement, il a été question de la vue et du toucher. J'ai rappelé la semaine dernière dans ma conférence J'ai rappelé la semaine dernière dans ma conférence qu'en perspective chrétienne, ce sont les deux sens qui sont pratiquement toujours en tête de la hiérarchie, parce que Dieu s'est manifesté, s'est révélé aux hommes, selon la tradition biblique, à partir de la vue et de l'ouïe. Donc il y a des raisons qui prévalent dans l'établissement d'une hiérarchie sensorielle. Alors ça, c'était juste un rappel rapide. Alexandre a eu raison tout à l'heure, et je pense aussi à Vincent, de parler du silence. Parce que, au final, pour l'historien, quelle que soit sa période de prédilection,
la problématique, c'est celle de comment saisir la vie à travers l'étude des sens. C'est comment saisir le côté vivant de l'histoire de l'homme. Alors, on se moque parfois, moi le premier, des collègues qui travaillent, particulièrement au Moyen-Âge, sur les rituels funéraires, les morts, etc. Tout ça, c'est... Alors, je vais les taquiner un petit peu. C'est un peu statique, tout ça. La mort, les... Voilà. Alors que l'enjeu, c'est comment on fait pour s'intéresser à la vie, à ce qui bouge, à ce qui est en mouvement, au fond. Et la problématique des cinq sens pour l'historien, c'est celle-là. Comment on fait, nous, pour essayer de comprendre comment ça bougeait, comment c'était vivant, d'une certaine manière. Et je parle de cela en relation avec ce qu'a évoqué tout à l'heure Alexandre au sujet du silence. Pourquoi ? Ben parce que Vincent le sait très bien, il achève un livre sur le silence au Moyen-Âge. Le silence, c'est justement pas la mort, c'est la vie intérieure. Le silence est plein d'activations sensorielles. Alors, c'est ça, nous, que nous devons décrypter aussi, comme historiens, c'est... Comment faire une histoire qui essaie de comprendre la vie ?
Je crois qu'elle voulait 20 minutes de questions, Gaëlle, donc ça va être le moment où... Alors, je ne vais pas répondre évidemment à ce qui est beaucoup, beaucoup trop large, juste simplement pour reprendre les éléments sur la polysensorialité ou sur la synesthésie qui évidemment sont mis en lumière à partir du 19e siècle avec les correspondances Rimbaud et comment lutter avec les richesses des sources documentaires de nos collègues contemporanéistes et même médiévistes, il faut bien l'avouer. Mais la polysensorialité est vraiment quelque chose qui est en pleine éclosion dans le champ historiographique des études antiques et qui existe aussi dans les mondes anciens, l'idée que il y a des activations d'un sens par un autre sens, que ce soit dans les rituels, païens, ou que ce soit même de manière générale. Une collègue qui s'appelle Adeline Grand-Clément à Toulouse, qui a travaillé sur le vocabulaire des couleurs et les couleurs de la mer chez Homère notamment, qui a parfaitement montré ces questions-là, combien est-ce que la vue, les descriptions en tout cas en rapport avec la vue, activaient d'autres sens. Tout cela, c'est des formidables champs d'études qui s'ouvrent devant nous et qui doivent être creusés pour aller tirer les fils et essayer de faire que l'histoire des sens et l'histoire de la polysensorialité ou de la synesthésie soit aussi quelque chose que l'on voit sur les longs termes, pour lequel on puisse avoir une réflexion de longue durée et que l'on n'invente pas forcément, ou n'en croit pas inventer certains éléments à des périodes données, mais voilà, faire l'histoire aussi de ces éléments complètement insaisissables a priori, comme l'a rappelé Eric, comment saisir ces sensations qui ont disparu. Les sources, encore les sources, toujours les sources et les réflexions nouvelles, des approches nouvelles, des manières nouvelles d'aborder les sources, et la science se portera bien.
Oui, alors rapidement, simplement, je pense que le fait de placer la vie au centre d'une question à laquelle il est absolument impossible de répondre, merci Eric, mais c'est pour ça que je ne vais pas le faire. Je pense que ça nous invite en tout cas à éviter un écueil très important quand on travaille sur des sujets comme celui-ci, sur les sens, mais c'est le cas aussi, et je sais qu'on partage ça avec Alexandre, c'est quand on travaille aussi sur le silence, c'est en fait de penser en une histoire des sens totalement désincarnée finalement. De penser les sens comme un phénomène qui existe tout seul, un phénomène autoporté et qui ne serait jamais incarné ni dans une personne, et ce qui serait encore plus problématique dans aucune catégorie finalement. Aujourd'hui on s'interroge, est-ce qu'il y a un regard masculin ou féminin sur l'art? C'est des choses qui sont extrêmement intéressantes, qui sont extrêmement difficiles à saisir, mais qu'il faut poser. Les conditions sociales du regardeur, notamment dans la sociologie de l'art, est quelque chose de fondamental. On ne peut pas poser de grandes catégories sans les affiner et sans être absolument conscient que ce sens-là, c'est certes un invariant physiologique, mais qui s'incarne dans une trajectoire et à un moment donné dans un corps qui vit, qui meurt, et le brin d'herbe d'un corps. Et aussi poser les sens, c'est aussi poser leur privation.
Ceci peut poser la privation d'essence. Et en fait, on a tendance parfois à interpréter le fait qu'on ne trouve pas un sens dans une source comme le fait que c'est un silence de la source, et non pas comme si ce silence de la source en fait était révélateur d'une privation ou d'une ce que nos collègues anglo-saxons appellent une euphonie en fait, hein, finalement, c'est-à-dire un plein sens d'un sens absent. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors là, encore plus difficile à saisir, c'est faire une histoire de l'absence de l'absence. Mais ça reste extrêmement stimulant parce qu'il y a des silences qui sont extrêmement éloquents. Ça, il fallait bien que quelqu'un la fasse à un moment donné, je l'ai faite. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il y a quand même tout cet aspect de privation, de retenue. Quand on travaille sur le silence, travailler sur le silence carcéral, le silence imposé, le silence de l'autisme, etc., ce sont des champs absolument fascinants, absolument passionnants et très humains, qui posent vraiment l'homme au cœur de tout ça. Je crois qu'il faut vraiment se prémunir d'une lecture absolument clinique au sens négatif du terme. C'est-à-dire que le sens est un pur objet de sciences humaines et de sciences sociales, et dans humaine, il y a humain, je crois.
Alors, Frédéric, pour être tout à fait équitable...
Juste trois petits points. Le premier, c'est une citation aussi qui permet d'avoir une dimension existentielle. Il y a une phrase d'un roman de Zola qui a fait le tour des salons et des interrogations, qui est dans donc, le dernier volume de la série des Rougon-Macquart, qui dit la chose suivante. « Nos sens sont faillibles, nous ne connaissons le monde que par nos sens, donc il se peut que le monde n'existe pas. » Voilà, donc évidemment, donc sujet donc d'interrogation. Deuxième petit point, et on l'oublie trop souvent, il y a eu quelques propositions dans la deuxième moitié du 19e siècle, bon, qui sont dépéries après, mais qui évoquaient la possibilité de mettre sur place une police sensorielle. Voilà, donc un certain nombre comme ça donc de recommandations, parce que ça permet à la fois de s'attacher à un certain nombre de maladies considérées comme maladies de l'époque, maladies de la civilisation, notamment la myopie, puisque évidemment si la vue c'est sens noble et si on est myope ça pose problème. Et puis cette police sensorielle a aussi une utilité plus concrète dans le cadre de l'industrialisation, c'est qu'on s'est rendu compte par exemple que dans la deuxième moitié du 19e siècle, on avait dans un certain nombre de lieux et d'espaces un certain nombre d'accidents qui étaient dus donc à des dysfonctionnements sensoriels, puisque quand les codes de couleur, par exemple, pour faire passer les trains, quelqu'un n'est pas capable de reconnaître la bonne couleur, ça peut provoquer évidemment des accidents. Et donc on a commencé à faire une échelle, par exemple, pour les daltoniens, pour savoir éventuellement quelles étaient donc les difficultés ou les dysfonctionnements. Et puis donc troisième point, peut-être et dernier, c'est pour évoquer de nouveau donc Paul Broca, et ça c'est une vraie question historique, ça a déjà été traité de manière peut-être plus pertinente par rapport à la douleur, mais en fonction des époques historiques, comment percevait-on donc la douleur? Est-ce que la douleur avait la même intensité en fonction des différentes époques de l'histoire? Et par rapport au sens, eh bien Paul Broca en 1879 pose à peu près la même question, je le cite là aussi pour ne pas le surinterpréter. La véritable évolution qui s'est faite depuis Homère n'est pas un perfectionnement dans le sens de la vue, c'est un changement psychologique, c'est une amélioration dans le mode d'exprimer et de préciser la pensée. Toutes les couleurs existaient déjà, on les voyait, on ne les précisait pas. Et donc là, évidemment, c'est le débat aussi autour des sens.
Merci. Donc c'est le moment de passer à vos questions ou interventions. Peut-être, est-ce qu'il faut faire circuler le micro, peut-être ? Je ne sais pas s'il est ouvert celui-là.
Si, normalement.
Alors, vous précisez bien à qui est destinée la question. Sinon, on va se disputer pour répondre. On va noter. Non, je vous taquine, mais précisez quand même.
Oui, moi j'avais une question pour Monsieur Chauveau au sujet donc, du 19e siècle. Non, mais c'est parce que ça m'intrigue cette catégorisation des sens et notamment de la mise au banc de l'odorat que je trouve étonnante puisque, alors vous me détromperez, hein, c'est au 19e siècle qu'on voit l'évolution, l'apparition des parfums, des parfumeurs. On a Guerlain, on a Coty, on a tous ces parfumeurs qui vont de plus en plus s'adresser aux femmes de manière précise avec un mélange d'odeurs, etc. Donc ça m'étonne de voir cette mise au banc de l'odorat. J'aurais plutôt pensé au toucher pour ma part, puisqu'on a un 19e siècle qui est quand même très puritain. Le toucher, c'est très intime. Hein. On pense au corps à corps. Alors contrairement au Moyen-Âge, on peut se dire que le corps est un peu mis au banc. Et en revanche, l'odeur, justement, avec cette hygiénisation des rues, des villes, etc. J'aurais pensé, au contraire, une mise en avant de l'odorat. Alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre à ça.
Bon, je peux essayer, en tout cas, en partie. Non, mais les spécialistes comme ça, donc des odeurs et notamment des nuisances industrielles, se sont amusés à comptabiliser l'ensemble de la production sur les odeurs. Et effectivement, entre en gros, alors c'est de mémoire, mais 1875 et 1879, on assiste véritablement à un bond de la production historiographique. Avant, c'était pendant un siècle presque de manière étale à 14%, et brusquement, ça passe à 30%. Et donc à la fois dans ces différents écrits, c'est effectivement pour mettre un petit peu donc à l'index, rejeter donc la question des odeurs. Mais en même temps, vous avez raison, c'est-à-dire qu'en gros, à partir des années 1850, on voit de nouveaux parfums qui s'imposent, c'est ce qu'on appelait les eaux de senteur. Et ces eaux de senteur, ça devait être des eaux un petit peu donc printanières. Alors d'ailleurs, on mettait, je sais pas, la pâquerette, mais on mettait aussi par exemple le romarin. Voilà. Donc et donc on proposait ça. À ce moment-là, donc, la collectivité des acheteuses et donc des femmes. Et c'est le moment où, effectivement, donc, les parfumeurs prennent le pouvoir parce qu'il y a une sorte de diktat, il y a une normalisation donc, des odeurs qui sont proposées. Et à ce moment-là, effectivement, pour respecter ces règles qui sont données, on a même la toilette odorifiante. On exagère même quand on invite des convives, par exemple, à table. On met un peu de parfum dans les assiettes, etc., pour être sûr que ça sente bon. Voilà, on est... Voilà, mais donc c'est un mouvement qui est un petit peu donc contradictoire. Mais quand un certain nombre d'auteurs, disons pour faire simple, les savants donc s'interrogent aux cinq sens, c'est effectivement donc l'odorat qui est rejeté, qui est considéré comme le sens le plus primaire. Voilà. Et donc le toucher effectivement pourrait sembler un petit peu paradoxal, mais il arrive quand même au-dessus. Alors simplement, il y a un certain nombre de travaux qui sont pas très nombreux, mais qui disent que par exemple, on peut aussi prendre possession donc d'un objet par un intermédiaire. Et il y a tout un chapitre par exemple sur le fait de porter des gants, puisque quand on porte des gants, on peut mettre un certain nombre de choses à distance, et on dit que notamment quand on fait ses comptes, quand on manie de l'argent, il faut avoir des gants parce que comme ça on n'entre pas directement donc en contact. Et puis les développements de cette époque-là essayent de distinguer le toucher avec le tact, et à ce moment-là donc on a des travaux, mais qui le mettent quand même non pas sur un piédestal mais au-dessus effectivement donc de l'odorat.
Demi-élément de râlerie, l'inventerie de la parfumerie et des parfumeurs au XIXe siècle. J'ai des très bonnes adresses à Pompéi, si vous voulez. Hein. Ça fait longtemps qu'on se parfume.
Ce serait une question pour Monsieur Chauveau également. Pardon. Oh non. Vous avez dit que l'odorat était le sens le moins noble car il était le plus proche de l'animal, parce que très développé chez l'animal. Mais qu'en est-il de la vue, puisque les animaux ont également une vue beaucoup plus évoluée, enfin du moins beaucoup plus précise que la nôtre. Donc je vois pas en quoi est-ce que la vue serait au-dessus par rapport à ce critère-là.
Là, dans les différents travaux, ils n'ont pas besoin justement de prendre leur distance par rapport aux animaux. Quand on relit justement maintenant que manouvrier, c'est le fait de la bipédie, puisque à ce moment-là, puisqu'on est plus haut, on domine davantage, et donc ça suffit. Voilà, il n'y a pas beaucoup donc d'arguments. Alors par contre, sur la perte des sens, autant par exemple sur l'odeur, il y a un certain nombre de travaux, par exemple sur ce qu'on appelait la parosmie, c'est le fait de ne pas être capable de distinguer un certain nombre d'odeurs, autant sur la cécité complète, il y a un certain nombre d'études qui sont faites, mais plutôt pour venir en aide aux malades ou à ceux qui ont perdu la vue dès la naissance, mais il n'y a pas beaucoup de développement davantage. Alors par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est sur le parfum, là il y a une autre connotation, c'est par rapport au psychisme. On dit que si quelqu'un qui se met trop de parfum peut à ce moment-là donc connaître un dérèglement du cerveau, et on considère que par exemple c'est l'hystérie, l'hypochondrie et la mélancolie qui peuvent être produites ou accélérées par l'usage intempestif du parfum.
Vous avez encore le droit de poser des questions à Frédéric Chauveau. Merci. Non, pour ma part, je m'adresserai plutôt aux médiévistes. Peut-être Vincent de Bier en particulier, car vous avez parlé de l'imaginatio, donc tout ce qui se rapporte à l'imagination dans les images mentales. Et je me demanderais si dans les textes, en fait, cette question de l'imaginatio, on pourrait directement la rapprocher aussi dans les sens du toucher, de l'odorat, de l'ouïe, imaginer les sens et pas forcément uniquement ce rapport avec les images mentales. Est-ce que dans les textes, en fait, on peut voir cette pensée de l'imagination autrement que par les images mentales ?
Oui, alors en fait dans le l'imagination et la vis imaginatio est vraiment pensée au-delà ou en tout cas dans un deuxième temps par rapport à l'ensemble des perceptions sensorielles. L'ensemble des perceptions sensorielles sont un petit peu le terreau dans lequel l'imagination va se créer. Mais ce n'est pas la seule. C'est-à-dire que l'imagination ne s'alimente pas seulement des perceptions sensorielles. Elle s'alimente d'autres choses et elle s'alimente notamment de tout un tas d'autres types de perceptions qui ne sont pas basées sur les sens, puisque ce sont des perceptions erronées, les perceptions fausses, ce sont les rêves, etc. etc. Donc en fait, on ne peut pas dire que l'imagination est uniquement la création d'une image mentale qui serait liée à la perception sensorielle. C'est vraiment un type de connaissance du monde particulier qui s'appuie sur les perceptions sensorielles, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il va l'imagination, et ça c'est je crois un des grands apports du livre de Michel Carnes, montre très bien que l'imagination c'est la capacité de mettre en relation ce qui est vécu et ce qui est pensé. Et c'est de la rencontre du vécu et du pensé que naît l'imagination. C'est pour ça que l'imagination est très, très séparée, notamment par exemple de la fantasia, du fantasme, qui n'est pas du tout de l'ordre de l'imagination, qui est un autre type de pensée. L'imagination, c'est cette rencontre du pensé et du vécu, mais la perception sensorielle n'est qu'une partie d'imagination, et donc elle ne se repose pas exclusivement sur les images mentales nées de la rencontre au monde. En fait. Je ne sais pas si c'était très clair.
Ça serait une question pour tous les trois. On a posé cette question à Monsieur Palato la semaine dernière. C'était au sujet de la douleur. En fait, de nombreuses études actuelles ont permis de définir de nouveaux sens. Donc, y aurait le sens de la douleur, la sensation de chaleur et autres. Et donc, vous avez parlé de la douleur durant le débat. Et donc, j'aimerais savoir quelle était la perception. Approximativement de la douleur aux époques que vous avez étudiées, est-ce qu'elle pouvait être considérée comme un sens ou être attachée à un sens? Enfin, comment est-ce que la douleur était abordée?
Comme j'ai cité 8 semaines, on peut faire un rebours pour faire un mauvais jeu de mots. Non, mais du coup, c'est une vraie question, c'est extrêmement difficile parce que on peut prendre juste deux exemples pour l'illustrer un petit peu. Le premier exemple, c'est une thèse d'une collègue moderniste qui s'appelait donc Nicole Castan et qui avait donc travaillé plus particulièrement sur la criminalité dans le sud de la France. Et elle raconte un certain nombre d'éléments où, par exemple, il y a une rixe entre deux villageois. L'un perd son bras, il met son bras dans sa poche et rentre chez lui et il explique donc à sa femme. Alors donc du coup, quelle est la perception de la douleur à ce moment-là? On sait bien aujourd'hui que quelqu'un qui subit un choc, à ce moment-là, il y a des mécanismes de défense pour différer un petit peu donc la réaction. N'empêche qu'il chemine du lieu de l'auberge, là où a eu lieu la rixe, jusque chez lui, donc je ne sais pas, pendant peut-être 3/4 d'heure, 1 heure. Et donc il y a eu comme ça donc des discussions pour savoir si effectivement la perception de la douleur était la même, l'attitude vis-à-vis, ce qui peut être différent, l'attitude vis-à-vis de la douleur était la même. Et toujours au 19e siècle, on se préoccupe à un moment donné d'une catégorie un petit peu singulière qui est la catégorie des criminels. Et on en vient à dire que finalement, ceux qui sont criminels, ça veut dire qu'ils résistent davantage à la douleur que tous les autres. Et donc, on fait des expériences, on va leur enfoncer, par exemple, et on va recruter des volontaires, on leur enfonce des aiguilles, et on dit, ben oui, voilà, donc ceux qui crient le moins sur une échelle de temps à temps, ce sont donc les criminels. Alors, on fait aussi le tour des asiles, on va donner, par exemple, alors ça, c'est quelque chose qui avait suscité un certain effroi. Vous avez donc un malade qui était donc dans une cellule, qui va s'éventrer donc avec une petite cuillère ébréchée, et puis on dit, regardez, il ricane encore. Ça veut dire que les fous et les criminels, finalement, sont quasiment insensibles à la douleur. Et vous le savez, donc, après, dans un certain nombre de pays, notamment aux États-Unis, il y aura des expériences avec l'électricité, et on dira qu'évidemment, ceux qui résistent le plus à la douleur, ce sont ces catégories-là. Mais là, évidemment, c'est des constructions. Voilà. Et, mais simplement, donc, d'un point de vue historique, on peut le traiter par rapport à un certain nombre de périodes, mais c'est pareil, si on fait l'anesthésie, la reine Victoria pour l'accouchement, c'est donc la première monarque qui est anesthésiée pour être accouchée. Voilà. Après, évidemment, donc, ça simplifie, si je peux dire, donc, les choses, mais qu'en était-il avant? Ça ne veut pas dire que la douleur ressentie n'était pas forcément donc, la même. Mais ça, c'est une vraie question donc, historique, et c'est très difficile d'y répondre.
C'est une question extrêmement complexe. Je suis bien embêté, mais qui est pas en fait très très. Ma réponse sera pas très éloignée de ce que vient de dire Frédéric. En fait, la douleur et la souffrance, qui sont deux choses différentes dans le vocabulaire latin médiéval, en tout cas, reposent sur une dialectique entre l'âme et le corps, toujours. Et pas que ça, hein, pratiquement tout au Moyen-Âge, mais en tout cas en particulier la dialectique entre l'âme et le corps. La souffrance corporelle est avant tout le signe d'un désordre, d'un déséquilibre dans l'âme. Donc, alors peut-être pas le fou, même si la folie est perçue selon les mêmes choses, mais en tout cas quelque chose qui relève du déséquilibre. Du déséquilibre entre l'âme et le corps. Et la souffrance et la douleur sont avant tout traitées, en tout cas dans le vocabulaire médical, comme une passion. Hein, c'est comme une passion qui est plutôt de l'ordre de l'état d'âme, et donc comme une émotion. D'ailleurs, Damien Bocquet passe doucement de l'étude des émotions à l'étude de la douleur, hein, pour le Moyen-Âge. Mais en tout cas, il y a cette notion... du fait que la douleur corporelle, la souffrance corporelle est le reflet de quelque chose qui ne va pas bien ailleurs que dans le corps. Et donc ça pose évidemment un certain nombre de questions. Il y a une richesse de vocabulaire au Moyen-Âge en latin pour décrire le tourment, le tumulte du corps et qu'on a beaucoup de mal à traduire, parce que évidemment il faudrait trouver la phrase en latin ou en médio latine qui dit j'ai mal. Ça serait extrêmement compliqué en fait à trouver explicitement. Donc il y a vraiment un très beau champ d'étude ici, et quand on pense au tympan de Sainte-Foy de Conques, où on voit les tourments des damnés en enfer, hein, si on prend les derniers chants de l'enfer de Dante, on a une liste de tourments, mais on voit bien que la séparation entre le tourment du corps et la douleur de l'âme, c'est Dante qui le dit tel quel, hein. Il a dit je voyais les âmes des damnés dont le corps souffrait autant que leur âme, et je ne voyais qu'un seul homme. Donc il y a vraiment cette espèce de mix ici qui est très difficile à saisir, mais là je crois qu'il y a vraiment de belles études à faire encore, et qui doivent s'appuyer avant tout sur le lexique ici.
Oui, alors c'est cette fois l'avantage de parler en dernier, je crois que mes collègues ont tout dit. Non, mais en tout cas, sur la difficulté de la question, c'est certain, et sur le moindre objet de réflexion que ça a pu donner en histoire de l'Antiquité encore, parce que là, j'ai eu pourtant du répit pour réfléchir aussi bien aux travaux qu'aux sources, et vraiment, voilà, c'est un champ qui en reste encore très largement à écrire, soit que, on retourne sur l'histoire d'absence et d'absence dont parlait Vincent tout à l'heure, soit qu'il n'y ait pas le vocabulaire, ou qu'il n'y ait pas dans les sources de quoi le faire, mais j'en doute malgré tout, et notamment parce qu'en écoutant Vincent parler, ça faisait écho à beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui se retrouvent, notamment dans la philosophie stoïcienne, là encore sur les questions de comment faut-il se supporter la douleur, faut-il chercher à évacuer la douleur, ou au contraire faut-il la supporter dans la mesure où elle ne dépend pas de moi, elle n'est pas vraiment une douleur que je dois ressentir. Il y a des choses qui ont été reprises dans les pensées postérieures, les questions du tourment de l'âme qui est l'objet de passion intérieure. Là on est carrément dans un vocabulaire stoïcien, donc c'est des éléments qu'on trouve aussi. Après, sur la douleur concrète physique, encore une fois, je vais être d'un très très faible apport, soit déjà parce que je ne m'étais pas forcément posé la question avant, mais même parce que je ne sais pas si c'est des questions qui ont été posées, et c'est des champs à parcourir et à ouvrir encore.
Juste une dernière chose à ce sujet, si vous me permettez, que je n'ai pas mentionné l'autre jour, c'est que le Moyen-Âge a pensé aussi la douleur en termes de sublimation. Et là, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure au sujet du Christ. Enfin, la sublimation, elle est d'abord le modèle christique. J'avais commencé ma conférence la semaine dernière en parlant de Jacques de Voragine au XIIIe siècle, qui parle du Christ qui a souffert à travers ses cinq sens sur la croix. Le modèle, c'est celui-là. Donc là, on peut véritablement parler de sublimation. C'est-à-dire qu'il faut souffrir pour imiter le Christ et être sur la bonne voie. On a une multitude de récits de moines dans le Moyen-Âge qui se flagellent avec un rythme sensoriel acoustique, qui est de l'ordre de la sublimation qu'on va appeler par la suite, Frédéric, doloriste. Mais en perspective chrétienne au Moyen-Âge, ce n'est pas du dolorisme, c'est de la sublimation spirituelle ou corporelle en vue d'une orientation, enfin d'un but spirituel. Ce n'est qu'après, Fabrice, tu me corrigeras si je me trompe, mais 17e, 18e, c'est vraiment les grands siècles aussi doloristes, où là, on pratique... La douleur presque dans un autre sens, qui n'est plus de l'ordre de la sublimation, mais qui est de l'ordre du dolorisme. Voilà. Alors, je ne sais pas, on a terminé, c'est bon ? Encore une question ou pas ?
Si c'est pour Frédéric, on s'en va.
Non, c'est simplement justement pour rebondir sur votre intervention. Parce qu'on sait effectivement qu'au Moyen-Âge, vers la fin du Moyen-Âge, on a vraiment une mise en avant des souffrances du Christ avec la Devotio Moderna, l'imitation Christi, etc. Mais est-ce qu'on peut parler d'une constante à l'époque médiévale, parce que c'est quand même très long, c'est 10 siècles, est-ce que cette mise en avant de la souffrance à l'imitation du Christ, elle est d'actualité au Moyen-Âge, ou est-ce qu'elle apparaît avec une...
de jeudi, parce que sans dévoiler ce que vous allez voir, les 10 premières minutes du film, c'est le Christ qui hurle parce qu'il a mal, parce qu'on lui plante les clous dans ses pieds et dans ses mains. Alors ça, on pourrait dire, c'est du dolorisme moderne et quelque chose qui relève plutôt de toute cette mise en scène doloriste qu'on voit déjà au 15e siècle. Voilà. Mais s'il fallait remonter dans le temps, ça prend des formes très très différentes. Il y a des modalités très très différentes.
Ce qui ne change pas, c'est la constance. Ce qui ne change pas, c'est la constance de l'imitatio Christi. Mais le Moyen-Âge, c'est très long, et le Christ, c'est très grand. Et donc, il a fait plein de trucs. Donc, on va choisir là où on va placer l'imitatio à un moment donné. Et ça, vous avez tout à fait raison. Il y a des constantes. Mais il est évidemment impossible d'avoir une vue globale comme ça en disant on a toujours... Oui, le Christ est mort sur la croix, c'est un fait.
Il vous appartient de conclure, Gaël, Manon, Antoine. C'est votre séance, c'est votre session. Ah non, ne me faites pas conclure, sinon vous n'allez pas dîner. Donc...
Merci beaucoup à tout le monde d'être venu, d'avoir assisté. Merci à nos spécialistes qui nous ont éclairés avec toutes leurs connaissances. Nous espérons vous revoir pour les autres événements qui sont à venir. Et nous vous souhaitons une bonne continuation et une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci.